gratuit. Voici les titres du journal.
En ski alpinisme, l'édition 2026 de la Valrette Altiski est annulée. Alors que la manifestation devait se tenir demain, les organisateurs ont annoncé que la météo est venue jouer les troubles fêtes. En ski alpin, le Super G de Kitzbühel est en course. C'est Marco Odermatt qui est en tête. Mais avant de savoir s'il la remportera vraiment cette course, on écoute dans ce journal les sentiments d'Arnaud Boisset avant de s'élancer. Et la campagne pour les élections communales vaudoises est lancée. D'ici au 8 mars prochain, nous vous proposons un état des lieux dans chaque commune aujourd'hui autour d'Aigle.
Et pour la météo, un temps qui deviendra couvert cet après-midi avec quelques averses de pluie ou de neige ce soir. Pour demain, un temps assez ensoleillé en début de journée avec ensuite le retour des passages nuageux. Puis dimanche, le ciel sera souvent nuageux. On fait le point complet sur cette météo à la fin du journal. Un journal qui nous est présenté par Valérie Favre. Bonjour Valérie.
Bonjour Axel, bonjour à tous. La troisième correction du Rhône se poursuit dans le Chablais. En ce début d'année, le premier chantier bicantonal commencera aux îles des Clous entre Yvorne et Vouvry. Les travaux prévus jusqu'en 2029-2030 comprennent notamment l'élargissement du Rhône et la construction et la consolidation de digues. Le coût total est estimé à 113 millions de francs financés en majorité par la Confédération. Par ailleurs, le projet de revitalisation du delta du Rhône est mis à l'enquête publique aujourd'hui à Neuville et à Port-Valais, afin de renforcer la protection contre les crues et la biodiversité. Enfin, le chantier de la nouvelle digue des Grandes Îles à Baie-Olon est terminé.
L'enquête sur l'incendie meurtrier du bar Le Constellation à Crans-Montana progresse.
Une instruction est en cours pour homicide et lésions corporelles et incendie par négligence. Les gérants ont été longuement auditionnés et sont à ce stade les seuls prévenus. Le ministère public a renforcé son équipe, ordonné de nombreuses mesures d'enquête et lancé une entraide judiciaire avec la France et l'Italie. La demande de nomination d'un procureur extraordinaire a été refusée. Aucune autre information ne sera communiquée pour l'instant. Le ministère public vaudois informe avoir adressé des citations à comparaître en qualité de témoin à 50 députés ou anciennes députées qui étaient en fonction lors de la présentation du rapport Pécher par le Conseil d'État en août 2025. Ces auditions s'inscrivent dans le cadre de l'instruction pénale ouverte consécutivement à la dénonciation du Conseil d'État pour violation du secret de fonction en raison de la publication dans un média roman d'information du rapport d'expertise externe sur le bouclier fiscal avant sa présentation officielle. Dans un monde géopolitique définitivement chamboulé, comment la petite Suisse neutre doit-elle se comporter? Peut-elle, sous couvert de défense et de ses intérêts économiques, faire le dos rond, tout encaisser et ménager ses partenaires, quitte à être humiliée publiquement? La Berne fédérale se tâte, l'analyse de notre correspondant parlementaire Serge Jubin.
Sous la coupole du palais fédéral, il subsistait un espoir que le respect, les règles et le multilatéralisme, qui sont autant de valeurs suisses, ne soient pas complètement effacés. Davos, cette année, a définitivement rangé aux oubliettes un monde certainement idéalisé du droit, des règles et du respect. Place aux autocrates, aux outrances, aux rapports de force, au chantage et aux règles bafouées qui changent sans cesse. Place aussi aux postures, aux humiliations, aux exigences sans bornes pour obtenir ce qu'on n'aurait certainement pas eu sans les menaces et sans la mise en perspective des rapports de force. Comment la Suisse réagit-elle? Elle se contorsionne et fait contre mauvaise fortune bon cœur. Humiliée devant le monde entier par Donald Trump, Karine Keller-Sutter lui a ensuite serré la main. En fait, la Suisse adopte une attitude bien connue. Elle défend ses intérêts et ceux de sa grande économie, peu importe par quoi il faut passer. Guy Parmelin l'a admis, usant comme d'habitude de métaphores. « Laissons passer l'orage, des effets d'annonce », a-t-il dit, « et faisons le point dans notre poche pour négocier en coulisses ». Ce que la Suisse doit faire aujourd'hui avec les États-Unis de Donald Trump, elle le fait en réalité depuis longtemps, avec la Chine par exemple. Courbette, point dans sa poche face aux valeurs bafouées pour continuer de commercer. Ainsi, selon des parlementaires qui se disent aujourd'hui pragmatiques, la Suisse doit simplement garder la tête froide et adapter sa diplomatie car au final, seul compte le résultat.
À l'étranger, l'UE va continuer à défendre ses intérêts contre toute forme de coercition, a assuré aujourd'hui le président du Conseil européen Antonio Costa. Les Européens s'étaient réunis en urgence pour trouver la parade en cas de nouvelle provocation du président américain. Après plusieurs semaines d'escalade et de menaces sur le Groenland, nous sommes revenus à une situation beaucoup plus acceptable dans la relation transatlantique, a estimé le président français Emmanuel Macron à Bruxelles. Mais il faut rester vigilant, a-t-il affirmé, appelant les États-Unis à respecter l'Europe. La 27e édition de la Valrette Altiski, course de ski alpinisme entre Verossa et Chindonne, n'aura pas lieu cette année en cause des conditions météorologiques ne permettant pas la mise en place de la compétition et l'assurance de la sécurité des coureurs. Les organisateurs font état d'une fonte de neige sur le bas de tous les parcours. Le feu n'a également joué les troubles faits sur toutes les parties hautes de la pointe de Valrette. Les précisions du président du comité d'organisation de la Valrette Altiski, Christophe Sirot.
C'est une décision qui arrive un petit peu, on s'y attendait, puisque il y a 3 semaines, on comptait sur les précipitations qui ne sont pas arrivées, qui sont venues en pluie. Donc effectivement, le peu de neige qui est tombé a été soufflé par le vent. Et puis, à partir de mercredi passé, quand on s'est rencontrés la dernière fois, il y avait encore des possibilités pour faire quelque chose. Donc on se disait, ben voilà, on va essayer de motiver les coureurs à s'inscrire, puisqu'il y avait encore des possibilités. À partir du jeudi, donc, le fun a continué et puis vraiment les conditions étaient vraiment défavorables en termes de température la journée, des températures très chaudes et des nuits très froides. Donc ce qui arrive sur un manteau neigeux qui est trop dangereux pour imaginer d'envoyer 200 à 300 personnes sur la Valrette.
L'annulation restait donc la seule option pour le comité d'organisation, pas question de changer de lieu, comme nous le précise son président Christophe Sirot.
Déjà pour l'endroit, effectivement, dans nos objectifs, Valrette Altiski, c'est de promouvoir le ski alpinisme, une chose, promouvoir la région et promouvoir principalement la Valrette. Donc, bon, déjà, un, c'est pas trop imaginable de le faire ailleurs. En deux, organiser une course comme celle-là, c'est énormément de travail. Donc, si on doit réfléchir en amont d'organiser 2 courses, ça fait 2 fois plus de travail. On est des bénévoles et on n'a pas le temps pour voir tout ça. Et puis aussi au niveau sécurité, on a quand même un guide, on a un staff technique qui est semi-pro. Donc eux, durant toute la saison et jusqu'à maintenant, ils ont skié sur le site, ils connaissent le manteau neigeux, ils connaissent la situation. De partir sur un autre site, on arrive aujourd'hui sur un autre site, on ne le connaît pas, c'est juste pas possible d'imaginer de garantir de la sécurité à nos athlètes.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. À noter que l'ensemble des participants inscrits ont tous été intégralement remboursés.
En ski alpin, le Super G de Kitzbühel est en cours.
Pour le moment, c'est Marco Odermatt qui mène le bal. Dans quelques minutes, c'est presque un revenant qui s'élancera avec le dossard 31, Arnaud Boisset, 9e de la descente du Hahnenkamm en 2024. Sur le podium du Super G de Saalbach, quelques semaines après, le Martignorain a connu une grave blessure au mois de décembre de la même année à Beaver Creek. Depuis, le Valaisan peine à revenir au plus haut niveau et actuellement, trop de Suisses sont en forme aux Coupes du Monde. Conséquence, les places manquent en vitesse et plusieurs coureurs doivent attendre patiemment à l'échelon inférieur en Coupe d'Europe. Quelque peu injuste selon Arnaud Boisset.
Je pense clairement qu'il y a une réflexion à faire parce que bon voilà là c'est on sent en fait que c'est, ça fait un gros blocage et puis du coup on peut c'est dangereux parce qu'on peut potentiellement perdre une génération parce que là faut pas oublier qu'il y a un bouchon pour moi en Coupe du Monde en descente j'ai eu heureusement la chance de faire quelques super jets mais là je suis tourné en Coupe d'Europe et du coup j'ai fait bouchon pour des autres jeunes qui arrivent en Coupe d'Europe et puis faut pas oublier qu'il y a des jeunes qui performent en Coupe d'Europe qui font des podiums et des victoires et qui peuvent pas être alignés en Coupe du Monde et du coup où est leur avenir s'ils ne peuvent pas aller plus haut. Donc c'est, je pense qu'il y a clairement moyen d'améliorer le système.
Arnaud Boisset a passé les dernières semaines au sein de cette fameuse Coupe d'Europe, 8e vendredi dernier sur le Super G de Pasteurne. L'Octodurien s'est refait une santé, mais il explique qu'il est difficile de briller dans l'antichambre de la Coupe du Monde, tant les différences sont nombreuses avec l'élite. Arnaud Boisset.
Je suis resté longtemps avant d'arriver enfin sur la Coupe du Monde. Et puis le truc, c'est qu'on a des super G qui ressemblent à des géants rapides. Là, on a eu la Coupe d'Europe le même jour que Wengen et du coup, on a bien pu comparer. Nous, je pense qu'on passait à peine les 100 km/h alors qu'à Wengen, c'était 140 km/h. Et du coup, moi, j'ai pas non plus la préparation idéale pour la Coupe d'Europe parce que moi, je me suis préparé pour la Coupe du Monde. J'ai un matériel qui fonctionne pour la Coupe du Monde. Et du coup, c'est clair que ça parle pas en ma faveur. Après, il y a plein de jeunes qui poussent, qui ont beaucoup de talent, qui ont peur de rien, qui n'ont jamais eu de grosses chutes et puis qui peuvent des fois prendre des risques que moi j'arrive plus à prendre et puis c'est vraiment un circuit très très compliqué à s'en sortir parce que voilà, c'est des pistes aussi plus faciles où c'est plus difficile de faire la différence.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. Arnaud Boisset aura donc tout intérêt à marquer des points aujourd'hui sur le Super G2 qui tribule afin d'éviter un nouveau passage prolongé par la Coupe d'Europe. Et actuellement, le podium est avec Marco Odermatt qui est premier avec 1 minute 08. Il est suivi de Franjo von Almen qui est avec 3 centièmes de différence. Et troisième, c'est l'Autrichien Stefan Babinski. À savoir que les autres Suisses, nous avons Stefan Rogentin qui est 7e actuellement. Et 17e, Alexis Monet. La course doit encore se faire pour plusieurs Suisses, dont Justin Merisier tout à l'heure.
Radio Chablais, spéciale élection.
À l'approche des élections communales de mars prochain, Radio Chablais vous propose chaque jour un arrêt sur image dans une commune de la région. Objectif, faire le point sur les enjeux locaux, les forces en présence et les listes déposées à quelques semaines du scrutin. Aujourd'hui, direction Aigle avec Léa Journeau.
À Aigle, l'entier de la municipalité a décidé de repartir pour un tour afin de briguer les 5 sièges de l'exécutif le 8 mars prochain. 3 nouvelles têtes ont souhaité tenter leur chance. Jean-Marc Souter qui rejoint les sortants Fabrice Cottier et l'actuel syndic Grégory Deveaux sur la liste PLR. L'UDC et les Verts ont décidé de tenter le coup en proposant chacun un candidat, Gabriel Clément pour l'UDC et Claudia Mana pour les Verts. Le sortant Jean-Luc Duroux repart pour un tour avec la liste Démarche citoyenne, de même que Maud Allora sur la liste alternative Ensemble, et le Parti socialiste est représenté par le sortant Stéphane Montangero. Au niveau du conseil communal, 5 listes ont été déposées, un total de 124 candidats pour 70 sièges. Le PLR, actuellement majoritaire au sein du législatif, a décidé de réaliser une coalition de droite et centre-droite en rassemblant ses candidats, les candidats indépendants et ceux du parti alternative, soit un total de 44 personnes sous une même bannière Ensemble. Une coalition également soutenue par le centre et les Verts libéraux. 4 autres listes ont aussi été déposées. L'Entente Aiglonne, qui compte actuellement 8 élus, propose 19 noms, les UDC proposent 22 personnes, alors que les Verts ouverts, qui comptent 9 sièges, proposent 17 candidats. Viennent ensuite le PS et ses 22 noms. Ces élections qui s'inscrivent dans un contexte marqué par des défis majeurs avec lesquels les futurs élus devront composer lors de cette prochaine législature, notamment en termes d'aménagement du territoire, avec la réalisation de plusieurs projets comme la place du marché et ses alentours, ou encore l'espace événement des Glariers, des dossiers que les électeurs devront garder en tête avant de nommer leurs autorités communales le 8 mars prochain.
Pour retrouver l'ensemble des informations sur ces élections dans la commune d'Aigle, avec les noms et les prénoms des candidates et candidats, ainsi que la liste en présence, rendez-vous sur radiochablais.ch.
L'actu en continu, radiochablais.ch.